إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. دبقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي: Ne vous enviez pas, ne surenchérissez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos, n'interférez pas dans les transactions des autres, soyez des serviteurs d'Allah en tant que frère. Le musulman est le frère du musulman, il n'est pas injuste envers lui, il ne l'abandonne pas, il ne lui ment pas, il ne le méprise pas. La crainte d'Allah se trouve ici. Et il montra sa poitrine et le répéta 3 reprises. Il suffit comme mal pour un homme qu'il méprise son frère musulman. Le musulman est entièrement sacré pour le musulman, son sang, ses biens et son honneur. Rapporté par Muslim. Ceci est donc un hadith immense que l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné ici. Et il concerne les relations des musulmans les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout d'abord dit dans ce hadith: ne vous enviez pas. C'est-à-dire, ne vous enviez pas les uns les autres. Et l'envie, al-hasad en arabe, c'est le fait que la personne s'afflige du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala accordé à autrui et qu'elle souhaite qu'autrui perde ce bienfait. Que ce bienfait soit de l'argent, un rang, une science ou autre chose parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Et Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah, il a mentionné que le hasad, l'envie, c'est le fait d'avoir de la répulsion pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé comme bienfait à autrui, même s'il ne souhaite pas sa disparition. C'est-à-dire que le simple fait de s'affliger ou d'avoir de la répulsion pour le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à autrui, alors ceci fait de la personne un envieux. Et il est tombé dans le hasad, l'envie, qui est blâmable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne surenchérissez pas. C'est-à-dire, ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Ceci concerne donc les transactions. Et la surenchère, qui est visée dans le hadith, c'est le fait qu'une personne surenchérisse sur un produit sans vouloir l'acheter, mais qu'elle vise par cela le fait de nuire à l'acheteur ou de profiter au vendeur, ou les 2 choses en même temps. De nuire à l'acheteur, c'est-à-dire par exemple, il y a une personne dans le marché qui est en train d'acheter un produit et il n'aime pas cette personne, il veut lui causer du tort. Il écoute que cette personne va acheter le produit par exemple pour 50 euros, alors il surenchérit et dit: moi je donne 60. Et son but est de nuire à cet acheteur. Et ceci est interdit. L'autre cas, c'est de vouloir profiter au vendeur. Le vendeur est un de ses amis, il voit qu'il est en train de vendre un produit, les gens vont lui acheter à un prix, et lui il souhaite que les gens lui donnent plus. Il cherche donc à profiter à son ami qui est le vendeur. Alors il vient et il surenchérit alors qu'il ne souhaite pas acheter le produit, mais dans le but que les gens achètent ce produit plus cher et profitent à son ami. Et ceci également est interdit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne vous haïssez pas. C'est-à-dire, ne vous haïssez pas les uns les autres. N'ayez pas de la haine les uns envers les autres. Et le sens de cet ordre donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie l'interdiction de tout ce qui mène à la haine entre les musulmans. C'est-à-dire, ne faites pas ce qui cause la haine et la répulsion des uns envers les autres. Et si cette haine ou cette rancœur se trouve dans les cœurs de certains d'entre vous, vis-à-vis de leurs frères, alors ils doivent veiller à la dissiper et à purifier leur cœur de la présence de cette haine et de cette répulsion envers ses frères musulmans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous tournez pas le dos », c'est-à-dire « Ne vous tournez pas le dos les uns des autres ». Que ce soit au sens propre, c'est-à-dire en tournant le dos à ton frère. Il y a ton frère présent dans une assise et tu lui tournes le dos pour ne pas qu'il te parle, pour ne pas qu'il te voie. Ceci entre dans l'interdiction mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, que ce soit concernant les opinions et les avis. C'est-à-dire que vos avis ne s'opposent pas. Ne vous divisez pas dans vos avis, mais soyez unis et ne vous éloignez pas les uns des autres. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'interférez pas dans les transactions des autres. C'est-à-dire, par exemple, tu as vu une personne qui a vendu une marchandise à une autre à un certain prix. Et tu te rends vers l'acheteur et tu lui dis, je peux te vendre la même chose pour moins cher. Ou alors, à ce prix-là, je peux t'avoir mieux. Ceci est une manière d'interférer sur la vente de ton frère. Et ceci est interdit d'après le texte de ce hadith. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, soyez des serviteurs d'Allah en tant que frères. C'est-à-dire, comportez-vous comme des frères, les uns envers les autres. Unissez-vous par la fraternité de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vous des frères. Soyez donc des serviteurs d'Allah en tant que frères. Et cette fraternité, elle implique, comme on l'a vu dans d'autres hadiths, que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ta foi, elle ne peut pas se concrétiser si tu n'agis pas ainsi, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. Il insiste le sens de la phrase qu'il vient de dire. C'est-à-dire, le musulman est-il le frère du musulman dans son alliance, dans son amour, dans sa loyauté, dans son bon conseil, dans ses relations avec lui, il se comporte tel un frère. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce qu'implique cette fraternité. Et il a dit, il n'est pas injuste envers lui. C'est-à-dire qu'il ne le prive pas de son droit. Il ne renie pas son droit. Et il ne transgresse pas à son égard. Ni vis-à-vis de ses biens, ni vis-à-vis de son sang, ni vis-à-vis de son honneur, ou autre chose, quelle qu'elle soit. Mais le musulman, il n'est pas injuste envers son frère. Et il ne l'abandonne pas. C'est-à-dire qu'il ne le délaisse pas et ne l'abandonne pas à un moment où son frère a besoin d'être secouru. À titre d'exemple, si tu vois un de tes frères qui est opprimé et qu'un oppresseur ou un injuste le dénigre, ment sur lui, parle dans son dos de manière injuste et fausse, alors il t'incombe à ce moment-là de secourir ton frère, de le défendre et tu ne dois pas l'abandonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, il ne l'abandonne pas. Tu ne dois pas abandonner ton frère lorsqu'il a besoin d'être soutenu. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui ment pas. C'est-à-dire, il ne l'informe pas de choses qui sont fausses et qui ne sont pas réelles. Et le mensonge, il peut avoir lieu par la parole ou par les actes. Par la parole, c'est clair et c'est connu. C'est le fait que tu lui dises une chose alors qu'elle ne s'est pas passée ainsi. Tu lui décris une chose contraire à la réalité. Ceci est un mensonge et ce n'est pas permis. Le mensonge par les actes, c'est par exemple que tu lui vends une marchandise et que tu lui présentes d'une manière à ce qu'il pense qu'elle est neuve, alors qu'elle ne l'est pas. Tu caches les défauts, tu la nettoies, comme si elle était neuve alors qu'elle a été utilisée. Ceci est un mensonge par les actes et ce n'est pas permis. C'est une tromperie à l'encontre de ton frère musulman. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne le méprise pas. Ceci également fait partie des choses qui ne conviennent pas que tu fasses à l'égard de ton frère. Que tu le méprises, que tu le rabaisses, que tu te sentes supérieur à lui ou que tu lui fasses savoir qu'il est inférieur. Tout ceci sont des choses qui sont blâmables. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la crainte d'Allah se trouve ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il indiqua sa poitrine à trois reprises. Et il répéta cette phrase, la crainte d'Allah se trouve ici. La crainte d'Allah se trouve ici. La crainte d'Allah se trouve ici. C'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas sur la langue ni sur les membres. Mais la langue et les membres du corps, ils suivent ce qui se trouve dans le cœur. Si le cœur est bon, tout le corps sera bon. Et si le cœur est mauvais, tout le corps sera mauvais. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, insistant sur l'ordre mentionné précédemment. Il suffit qu'un mal pour un homme qu'il méprise son frère musulman. Ceci est suffisant pour dire que cet homme est mauvais. Il lui suffit comme mal et comme péché de mépriser son frère musulman. Tu ne dois donc pas mépriser tes frères. Et ne pense pas que mépriser ton frère est une chose simple et sans gravité. Au contraire, c'est un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans ce hadith. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est entièrement sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis que tu commettes une quelconque transgression ou que tu portes une quelconque atteinte au sang, au bien ou à l'honneur de ton frère parmi les musulmans. Car il est entièrement sacré. Et il t'est interdit de lui porter atteinte d'une quelconque manière. Ceci est donc une explication concise de ce hadith. Et on va maintenant mentionner quelques bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith les orientations prophétiques et éminentes concernant le comportement que le musulman doit avoir vis-à-vis de ses frères. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a décrit dans ce hadith un certain nombre de comportements à adopter vis-à-vis de nos frères en islam. Et certes, celui qui met en pratique ces orientations éminentes provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute qu'il obtiendra par cela une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sera aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il sera aussi aimé de ses frères de par son noble comportement. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction du hasad, l'interdiction de l'envie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous enviez pas les uns les autres ». Une personne pourrait dire « Il est possible que parfois, il vienne dans le cœur de l'un d'entre nous le souhait ou l'envie d'être supérieur à son frère, que ce soit dans une chose mondaine ou une chose religieuse. Et est-ce que ceci rentre dans l'envie qui est interdite ?» La réponse est que ceci ne fait pas partie de l'envie. Le fait que tu souhaites dépasser tes frères en termes de science ou dans les choses mondaines ou autres et que tu souhaites avoir un niveau supérieur à eux, ceci ne fait pas partie de l'envie car tu n'as pas souhaité qu'ils soient privés du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Tu as simplement souhaité être supérieur à lui. Et ceci n'est pas une chose blâmable. C'est une chose qui est naturelle dans le cœur du serviteur. Et si une personne ressent dans son cœur de l'envie vis-à-vis d'une autre, mais qu'il repousse cela, qu'il repousse ce sentiment, il ne transgresse pas vis-à-vis de son frère. A-t-il un péché pour cela, pour ce sentiment qu'il a eu dans son cœur? La réponse est qu'il n'y a pas de mal en cela. Il n'est pas dans le péché. Cependant, la venue de ce sentiment dans son cœur lui a fait perdre le degré de la perfection. Car le degré de la perfection, c'est que tu ne sois envieux de personne et que tu n'aies de l'envie vis-à-vis de personne parmi tes frères. Mais tu dois voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les autres de la même manière que les bienfaits sur toi. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde un de ses bienfaits à un de tes frères, tu dois te réjouir de la même manière que tu te réjouis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde de ses bienfaits. Et tu ne dois pas avoir de l'envie vis-à-vis de tes frères. Cependant, l'homme, de par sa nature, il se peut qu'il ressente certaines choses de cela et qu'il s'afflige en voyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé certains bienfaits à une personne, que ce soit de la science, que ce soit des biens, que ce soit une notoriété ou autre chose semblable. Cependant, ce sentiment ne le mène pas à chercher à nuire à son frère qu'il a envié. Donc dans ce cas-là, il n'a pas de péché, car ceci est une chose de laquelle il est difficile pour le serviteur de se délivrer. S'il arrive à s'en délivrer, alors ceci est meilleur et plus pur pour son cœur. Cependant, il y a des gens, lorsqu'ils envient une personne, ceci les amène à transgresser envers cette personne. Il va se mettre à dénigrer son frère. À titre d'exemple, s'il voit que son frère est connu pour sa générosité et ses dépenses qu'il fait sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant de nombreuses aumônes, que ce soit pour les pauvres ou autre œuvre de bien. Alors, tu vas le voir commencer à complimenter son frère et à faire ses éloges, puis ensuite dire « Oui, mais cependant, je crois qu'il gagne son argent du riba. » Et par ce mot qu'il vient de prononcer, il a fait perdre la bonne image que son frère avait dans le cœur des gens. Et ceci est une forme d'envie et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, tu vas le voir complimenter un de ses frères sur une chose, puis faire suivre cela d'une critique. Et ceci est un signe de l'envie. Ceci est un signe que cette personne a été touchée par l'envie et qu'il est envieux vis-à-vis de son frère. Il doit donc être blâmé et il doit se corriger et se débarrasser de ce sentiment blâmable. Donc le hasad, l'envie, elle est donc de différents degrés. On a dit le premier degré, c'est que tu aies l'envie de dépasser autrui. Et ceci est permis et cela ne fait pas partie du hasad. Le deuxième degré, c'est que la personne s'afflige du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à autrui et qu'elle ait de la répulsion envers cela. Cependant, il ne cherche pas à nuire à cette personne. Il ne cherche pas à lui faire perdre ce bienfait. Il repousse cela de son cœur. Alors ceci ne lui nuit pas, inshallah. Cependant, il n'a pas atteint la perfection. Et le troisième, c'est celui qui ressent cette envie dans son cœur, puis ensuite, qui cherche à nuire à son frère et à lui faire perdre ce bienfait. Et ceci est le hasad, et ceci est l'envie qui est interdite, et pour laquelle l'homme est dans le péché. Et pour s'en délivrer, la personne, elle doit se rappeler que ce hasad, il fait partie des caractéristiques des juifs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, au verset 109 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a également dit, afin de blâmer les envieux, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Donc celui qui ressent cette envie, en réalité, la première victime de cette envie, c'est lui-même. Il se nuit en priorité à lui-même. Pourquoi? Car il ne va jamais être heureux. Il ne va jamais trouver le bien-être dans sa vie. Car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs, elles se suivent, elles n'ont pas de fin. Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde des bienfaits à chacun d'entre nous. Donc l'envieux, dès qu'il voit un bienfait sur l'un de ses frères, il s'attriste et il s'afflige. Donc la première victime de cette envie, c'est lui-même. Il se cause du tort à lui-même, car il n'est jamais heureux. Il est toujours affligé et rempli de tristesse. En plus, ce comportement, c'est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une manière de rejeter et de s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il aimerait changer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus savant et le plus sage. Et il y a une sagesse dans chacun de ses décrets. Donc la personne qui est touchée par cela, elle doit faire en sorte de purifier son cœur et de s'éloigner de l'envie. D'autant plus que l'envie, en règle générale, elle est accompagnée d'autres péchés, comme la transgression vis-à-vis de ses frères, la médisance envers ses frères, le mensonge sur ses frères, ou le fait de propager leurs défauts ou de mettre en avant leurs péchés, leurs défauts et leurs mauvais côtés. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans de s'éloigner de l'envie, car cela fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans ce hadith. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'interdiction de la surenchère, c'est-à-dire la surenchère telle qu'on l'a décrite. Le fait qu'une personne intervienne dans une vente en faisant augmenter son prix alors qu'il ne veut pas acheter la marchandise, mais il souhaite simplement nuire à l'acheteur ou profiter au vendeur, ou bien les deux choses en même temps. Ceci est interdit, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction pour les musulmans de s'haïr les uns les autres, de se détester les uns les autres. Si tu ressens de la haine ou de la répulsion à l'égard de tes frères, tu dois faire en sorte de purifier ton cœur de cette haine. Et l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait que les musulmans se haïssent les uns les autres, cela implique nécessairement l'ordre que les musulmans s'aiment les uns les autres. Donc on tire deux bénéfices de cette phrase. L'interdiction de se haïr les uns les autres et l'ordre de s'aimer les uns les autres. Cependant, il se peut qu'une personne dise « Comment concrétiser cela alors que la haine et l'amour sont des choses naturelles chez l'homme et qui ne sont pas de son propre gré ?» En effet, la personne ne choisit pas toujours qui elle aime et qui elle déteste. Ceci sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans les cœurs. Donc la réponse est que pour concrétiser cela, tu dois connaître les causes menant à l'amour et les causes menant à la haine. Puis t'éloigner des causes qui mènent à la haine et multiplier les causes qui mènent à l'amour. Par exemple, si tu détestes une personne, car il a fait une mauvaise chose envers toi ou autre, pour une quelconque raison. Alors tu te rappelles ses bons côtés et ses qualités, afin de faire partir de toi cette haine et purifier ton cœur de cette haine. Mais si tu ne fais pas cela, alors cette haine, elle va rester dans ton cœur et tu vas détester cette personne. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, le croyant, il ne déteste pas la croyante. S'il réprouve en elle un comportement, il sera satisfait d'un autre comportement. C'est-à-dire que l'homme vis-à-vis de son épouse, si elle a un mauvais comportement, il doit comparer ce mauvais comportement qu'il a réprouvé à un autre comportement duquel il est satisfait. Et en faisant cela, il purifiera son cœur de la haine et de la répulsion. Et ceci sera remplacé par l'amour. Donc de la même manière, lorsque tu ressens de la répulsion vis-à-vis d'un de tes frères, tu dois te rappeler de ses qualités et de ses bons côtés, de ses bons comportements et autre chose. Ainsi, tu purifieras ton cœur de cette haine et elle sera remplacée par de l'amour envers tes frères. Donc, la haine, elle a des causes et l'amour, il a des causes. Le musulman, il doit donc veiller à mettre en pratique les causes menant à l'amour et à s'écarter des causes menant à la haine. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de se tourner le dos, que ce soit par le corps ou par les cœurs. Le fait de se tourner le dos par les corps, c'est le fait que lorsque tu vois l'un de tes frères, tu te mets dos à lui. Et ceci est un mauvais comportement. Et c'est une forme de mépris. Et c'est un manque d'attention envers ton frère. Et ce comportement-là, il va mener à quoi? Il va mener justement à la haine. C'est donc un comportement duquel tu dois t'éloigner. Et le fait de se tourner le dos par le cœur, c'est que les cœurs se dirigent en des directions différentes. Celui-ci va à droite, l'autre va à gauche. Donc on tire de cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se tourner le dos. L'obligation de l'union sur la religion. Et que les musulmans, ils doivent faire en sorte d'avoir un seul et même objectif qui est d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, ils doivent tous cheminer sur la même voie, sur le même chemin. La voie du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et s'ils ne font pas cela, ils vont se tourner le dos et se diriger dans des directions différentes. Et regardez aujourd'hui, toutes les sectes et toutes les factions aussi qui sont présentes. Elles se tournent les dos les unes aux autres. Et elles s'éloignent les unes des autres. Et ceci est une cause de grand mal au sein de la communauté. C'est pour cela que le fait de se tourner le dos est interdit. Et notamment, le fait de se tourner le dos par les cœurs. Et que les cœurs se divisent et qu'ils ne soient pas unis, car ceci est source de corruption et de nombreux méfaits au sein de la communauté. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction d'interférer dans les transactions de tes frères. Comme on a mentionné dans l'exemple précédent, que tu viennes et que tu proposes à ton frère une marchandise qu'il vient d'acheter à un prix moindre, ou que tu lui proposes une meilleure marchandise au même prix. Ceci est interdit, même si la vente est conclue. Car il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois que la vente est conclue, alors il n'y a pas de mal à lui dire. Et ceci arrive souvent. Tu vois ton frère qui a acheté une chose et tu lui dis « Tu m'aurais dit, je t'aurais vendu la même chose moins cher. » Ou « Je t'aurais indiqué un endroit où tu aurais pu avoir mieux au même prix. » Et ceci rentre dans l'interdiction. Car il y a des méfaits en cela. Premièrement, parmi les méfaits qu'il y a en cela, il y a que ton frère qui vient d'acheter ce bien, il va avoir dans son cœur de la rancœur envers le vendeur. Car il va se sentir trompé. Il va penser qu'il l'a trompé dans cette vente. Deuxièmement, parmi les méfaits qu'il y a en cela, il y a que l'acheteur, il va regretter son achat. Il va être triste. Tu vas donc l'attrister en l'informant de cela. Et le fait d'attrister ton frère musulman, cela fait partie des choses qui sont interdites. Troisièmement, il y a comme méfait également dans cela, qu'il se peut qu'en sachant cela, l'acheteur, il va essayer de trouver un défaut dans la marchandise. Pourquoi ? Pour essayer d'annuler la vente. Il va essayer de trouver une solution pour que le vendeur accepte de lui reprendre cette marchandise et de lui rendre son argent. Donc il y a des méfaits en cela. Et c'est pour cela que la législation de l'islam, qui est une législation parfaite, elle a interdit d'interférer dans les transactions des autres. Et il en est de même concernant les ventes. Ton frère vient de vendre un produit et tu te rends vers lui et tu lui dis « Il fallait me dire que tu le vendais, je te l'aurais acheté pour plus cher, moi. Je t'aurais donné plus que ce prix. » Ceci est interdit également pour ce que cela contient comme transgression vis-à-vis des droits des autres et également pour ce que cela peut produire comme conflit et comme rancœur entre les gens. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de la fraternité dans la foi. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soyez des serviteurs d'Allah en tant que frères. il est obligatoire que les musulmans ils se comportent comme des frères. Cependant, comment est-il possible pour le musulman de concrétiser cette fraternité avec ses frères? La réponse est comme on y a fait allusion précédemment, et que tu dois t'éloigner et t'écarter du fait de penser au mauvais côté de tes frères et de penser à leurs défauts. Au contraire, tu dois sans cesse te rappeler des qualités et des bons côtés de tes frères, et ce afin de les aimer et de faire disparaître de ton cœur toute rancœur et toute haine vis-à-vis de tes frères. Et si tu agis ainsi, tu pourras concrétiser cette fraternité, inshallah ta'ala. Et entre dans cela également le fait de se faire des cadeaux. En effet, lorsque tu reçois un cadeau de ton frère, ceci dissipe de ton cœur toute rancune et toute haine, et cela fait naître entre vous de l'amitié et de l'amour. Également, parmi les meilleures manières de concrétiser cette fraternité et d'entretenir cette fraternité, il y a le fait de se réunir dans les œuvres de bien et de piété, comme les adorations, en commençant par les 5 prières en commun, le fait de se réunir le jour du vendredi pour la prière, le fait de se réunir le jour des fêtes, et le fait de se réunir dans les œuvres de bien et de piété. Et parmi celles-ci, l'apprentissage de la science. Se réunir pour apprendre la science religieuse, pour mémoriser le Coran, pour mémoriser les hadiths. Tout ceci sont des choses qui permettent de concrétiser la fraternité entre les musulmans et de faire naître en eux l'amitié et l'amour et dissiper toute forme de haine et de rancœur. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être tels des frères, il nous a exposé quel devait être le comportement du musulman avec son frère. Il nous a exposé le fait que le musulman est entièrement sacré pour le musulman, son sang, ses biens et son honneur. Et que le musulman, il ne doit en aucun cas transgresser d'une quelconque manière vis-à-vis de ses frères, que ce soit sur leur sang, leur bien ou en portant atteinte à leur honneur. Donc le 9e bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la sacralité de l'honneur du musulman et l'interdiction de porter atteinte à l'honneur de tes frères. Et entre dans cela l'interdiction de la médisance, car la médisance, elle fait partie des péchés majeurs, des grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a défini la médisance? Il a dit, c'est le fait que tu évoques ton frère par une chose qu'il réprouve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé la médisance au fait de manger la chair de ton frère après sa mort. Et ceci afin de te répugner du fait d'accomplir cet acte ignoble qui est de médire sur ton frère. Et il faut savoir que la médisance, elle est de plusieurs degrés. Il y a la médisance vis-à-vis de l'ensemble des musulmans qui est interdite, mais il y a une médisance qui est d'une forme aggravée. Et cette médisance, elle est de plusieurs sortes. Il y a par exemple la médisance sur les gouverneurs des musulmans. Médire sur un gouverneur, ce n'est pas comme médire sur un individu parmi la masse des musulmans. Car la médisance sur les gouverneurs musulmans, elle mène à leur répulsion. Elle fait naître dans les cœurs des gens la haine envers les gouverneurs. Et cette haine, elle poussera les gens à ne plus leur obéir, à ne plus se soumettre à leurs ordres dans le bien. Et cela peut mener à un soulèvement contre le gouverneur. Et cela contient de nombreux maux. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à cette médisance aggravée et s'en éloigner. Également entre dans cela, dans la médisance aggravée, la médisance des savants. En effet, médire sur le savant, ce n'est pas comme médire sur le commun du musulman. Car la médisance sur le savant, elle porte atteinte à sa personne, mais elle porte également atteinte à la science de la religion que porte ce savant. Et si les gens médisent sur les savants, alors le rang du savant, il ne va pas être respecté. Et les gens ne vont plus accepter les paroles des savants. C'est pour cela que l'on voit la gravité des paroles que l'on entend ces jours-ci à l'encontre de certains savants, comme le fait de dire « tel savant a vieilli, il est faible, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Tel savant a un mauvais entourage qui l'influence, on lui dicte ses paroles, elles ne proviennent pas de lui. » Et tout ceci dans quel but? Dans le but de détourner les gens des conseils et des orientations des savants. Puis ensuite, ils viennent te faire croire qu'ils respectent les savants et les refugient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre également parmi les formes de médisance aggravée, la médisance envers les prédicateurs, le fait de médire sur les gens qui appellent au tawhid et à la sunna, les gens qui appellent à la correction de la croyance et à s'attacher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de médire sur eux, cela va mener les gens à perdre confiance en eux et ensuite à délaisser ce à quoi ils appellent comme bien, comme tawhid, comme sunna et autre chose qu'ils enseignent et auxquelles ils invitent les gens. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il n'est pas permis pour le musulman d'être injuste envers son frère musulman, quelle que soit la forme d'injustice. Et ce, car l'injustice, mes frères, elle sera source de ténèbres au jour de la résurrection. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, « Savez-vous qui est le ruiné ?» Alors, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont dit, « C'est celui qui n'a ni dirham ni dinar, celui qui n'a pas d'argent, celui qui ne possède aucun bien, dire de lui qu'il est ruiné. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Le ruiné, c'est celui qui viendra au jour de la résurrection, avec des hasanats semblables à des montagnes. Mais il viendra alors qu'il a tapé celui-ci, qu'il a injurié celui-ci, qu'il a pris l'argent de celui-ci. Alors celui-ci viendra et prendra de ses hasanats. L'autre viendra et prendra de ses hasanats. L'autre viendra et prendra de ses hasanats. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de hasanats. Alors on prendra de leurs péchés et on lui lancera sur lui. Et il sera jeté dans le feu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. » Donc vous voyez à travers ce hadith, le danger de l'injustice, le danger d'être injuste envers ses frères, le danger de parler sur ses frères, de mentir sur ses frères, de calomnier sur ses frères et de médire sur ses frères. Tout ceci, ce sont des causes pour venir ruiner au jour de la résurrection. Ceci nous montre donc le danger de l'injustice envers les musulmans. Onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de soutenir le musulman et de lui porter secours. Et l'interdiction de l'abandonner. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Et il ne l'abandonne pas ». C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour le musulman de secourir le musulman, quelle que soit sa situation, que son frère soit oppresseur ou opprimé, comme il est venu dans un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils lui ont dit « Ô messager d'Allah, nous savons comment secourir l'opprimé. Mais comment pouvons-nous secourir l'oppresseur ? C'est-à-dire, comment pouvons-nous le secourir alors qu'il oppresse son frère ? » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Tu lui interdis son injustice et ceci est la manière de le soutenir. » Donc le fait que tu interdises l'injustice à ton frère et que tu l'empêches d'être injuste envers ses frères, ceci est une manière de lui porter secours. Ceci est une bienfaisance envers lui en réalité. Lorsque tu l'empêches de commettre son injustice et que tu lui interdis de faire cette injustice, ceci est une forme de secours envers lui et c'est une manière d'être bienfaisant envers lui. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de la véracité. Et notamment, lorsque tu t'adresses à ton frère, tu ne dois pas lui mentir, ni à ton frère, ni à autre que lui. C'est-à-dire que le mensonge, il est interdit de manière générale en islam. Même aux mécréants, on n'a pas le droit de leur mentir. Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé ici de ne pas mentir à ton frère de par le contexte du hadith. Treizièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de mépriser le musulman. Quelle que soit sa faiblesse, quelle que soit son ignorance, quelle que soit sa pauvreté, tu ne dois pas mépriser ton frère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, « Il se peut qu'un homme soit ébouriffé. » C'est-à-dire que ses cheveux ne sont pas coiffés. Il a le cheveu tout ébouriffé. Qu'il soit plein de poussière. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de quoi se laver. Et que toutes les portes lui soient fermées. Partout où il se rend, on lui ferme la porte. Même si quelqu'un lui ouvre, dès qu'il se rend compte que c'est lui, il referme sa porte. Personne ne lui ouvre sa porte. Il a les cheveux ébouriffés, il est plein de poussière. Toutes les portes lui sont fermées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à son sujet ? S'il jurait par Allah qu'une chose allait se produire, alors elle se produirait ainsi. C'est-à-dire, de par son rang éminent qu'il a atteint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'honore en répondant à son serment et en faisant que la chose se produise telle qu'il l'a juré. Donc tu ne dois pas mépriser ton frère, aussi faible soit-il, aussi pauvre soit-il, aussi ignorant soit-il. Il se peut qu'un jour, il te dépasse et il soit meilleur que toi. Et ceci est une chose que l'on observe au quotidien. Combien de personnes étaient pauvres hier et sont riches aujourd'hui ? Combien de personnes étaient ignorantes hier et sont aujourd'hui des savants ? Il ne convient pas de mépriser son frère. Même si tu vois qu'une chose, par exemple, il ne la comprend pas, ne le méprise pas, ne le rabaisse pas.
ne te sens pas supérieur à lui. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes et que demain, il soit supérieur à toi, que ce soit en termes de notoriété, de science, de bien mondain ou autre chose, et qu'il te dépasse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la gravité de ce péché en disant après cela, il suffit comme mal à une personne de mépriser son frère musulman. Donc il ne convient pas de rabaisser tes frères, aussi faibles soient-ils, mais tu dois les respecter et les honorer, chacun selon sa situation. Quatorzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la taqwa, la crainte d'Allah, elle se trouve dans le cœur. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la taqwa se trouve ici. Il indiqua sa poitrine, c'est-à-dire son cœur. Cependant, il se peut que certaines personnes, elles viennent, elles disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que la taqwa se trouve dans le cœur. Alors tu vas le voir faire des péchés, délaisser les obligations, se plonger dans les interdictions, puis te dire la taqwa elle est dans le cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on lui répond à celui-ci? On lui répond, si tu avais la crainte d'Allah dans ton cœur, alors la crainte d'Allah, elle se serait manifestée sur ton corps. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans un autre hadith? Certes, il y a un membre dans le corps. S'il est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Quel est ce membre? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, c'est le cœur. Donc si le cœur, il est bon, le corps, il sera bon. Il n'est pas possible qu'une personne, elle soit plongée dans les péchés à longueur de journée et qu'elle délaisse les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ne se soumettent pas à ses obligations, puis qu'elles disent, j'ai la taqwa, j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la taqwa, elle est ici. Ceci n'est pas correct, et ceci s'oppose au texte des autres hadiths, comme on vient de le mentionner. Et la taqwa, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'agir dans l'obéissance à Allah, et de délaisser les interdits d'Allah. Donc comment celui qui est plongé dans les péchés peut prétendre avoir la taqwa dans son cœur? Wallahu al-musta'an. Enfin, quinzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith, l'obligation de respecter la sacralité du musulman dans ces trois choses qui sont le sang, les biens et l'honneur. Comme on l'a vu à travers les détails de ce hadith. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا